Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et depuis 2018, je crée des contenus et des expériences pédagogiques pour les indépendants et les freelances, pour les aider à se développer dans leur business, autant personnellement que professionnellement. Et si tu me connais un peu, tu sais que un des sujets qui me fascine, c'est l'impact de notre fonctionnement en tant qu'être humain, c'est-à-dire notre psychologie, nos émotions, nos relations avec les autres êtres humains, toutes ces choses-là, sur la manière dont on se comporte, et donc sur notre activité professionnelle, parce que nos comportements agissent aussi sur les résultats qu'on a dans notre activité et notre business. Et je crois vraiment qu'on ne mesure pas pleinement à quel point une immense partie de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise, de ce qu'on a en termes de résultats dans nos business indépendants, que ces choses sont en fait conditionnées par des trucs invisibles, abstraites, qu'on a d'ailleurs trop rapidement fait d'écarter comme du bullshit, car c'est pas aussi concret qu'une recette miracle en 3 étapes pour faire X, Y ou Z. Et je m'arrête dans cette phrase que j'ai dit sur le mot « conditionné ». Car c'est de cela qu'on va parler dans cet épisode hors-série. On va parler de nos conditionnements et comment ils influencent notre vie, notre regard sur le monde et donc aussi notre activité. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir pour la 2e fois sur ce podcast Marie Lanazza, qui est dans le travail mon associée sur le programme Surf, ma toute première coach aussi, et dans ma vie, une de mes très proches amies. Pendant cette discussion, on s'est plongé en profondeur dans le sujet de nos conditionnements. Qu'est-ce que c'est, le conditionnement? Comment ça fonctionne? D'où ça vient? Quel est l'impact concret sur nos vies et nos business? Parce que oui, c'est très concret. Et comment est-ce qu'on déconstruit ces conditionnements et les croyances qui vont avec? Tant de questions autour de ce sujet fascinant qui vont, je l'espère, t'inspirer à aller explorer ce terrain à l'intérieur de toi. Sur ce, je te laisse directement te plonger dans notre échange et on se retrouve tous les deux à la fin pour le petit débrief. Bonne écoute. Bienvenue de retour sur Young World and Freelance, Marie.
Je suis ravie.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, Marie a été passée dans un des tout premiers épisodes du podcast, il y a 2 ans maintenant, en 2019. Du coup, je suis trop heureux de rediscuter avec toi.
Et moi aussi. J'adore ton podcast.
Cool, merci. Pour commencer, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que dans l'épisode à l'époque, et si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter peut-être en premier et revenir par la suite. Et dans l'épisode à l'époque, je t'avais posé la question rituelle de pourquoi et comment tu es devenue indépendante. Je vais la changer un peu, comme tu l'as déjà dit dans cet épisode-là. Cette fois-ci, je vais te demander, qu'est-ce qui a changé en 2 ans?
Qu'est-ce qui a changé en 2 ans?
Dans ta vie d'indé.
Déjà, j'ai vécu beaucoup d'expériences différentes. Ça a enrichi la vision de mon activité. Je pense aussi que j'ai grandi dans ma conscience de ce que ça implique d'être entrepreneuse. Ma vision a évolué. J'ai développé des compétences aussi. Ouais, c'est ce qui me vient là.
Je voulais te poser cette question parce que je trouve ça trop intéressant, justement, moi qui te vois de plus près que les auditeurs, qui te suis de jour en jour, de voir les évolutions qui peuvent se passer en 2 ans. On peut se dire c'est long et à la fois c'est court à l'échelle d'une vie. Et en même temps, tout ce qui est possible, c'est fou.
C'est assez ouf comme ma vision a évolué, ma compréhension aussi de l'entrepreneuriat a changé. La place que ça prend dans ma vie.
En voyant ça pour toi, et je me dis que ça peut servir d'ancrage super cool pour les personnes qui écoutent, qui sont peut-être au début et qui se lancent, ou alors qui ont l'impression que les choses n'ont pas trop bougé pour eux en 2 ans, parce que ça peut être la même chose tout le temps. Je suis curieux pour toi, les leçons que tu tires de ces 2 années, à voir que ta vision évolue, à voir que tu as plein d'expériences qui marquent aussi peut-être l'évolution de ton activité. Tu dirais que c'est quoi les espèces de leçons que tu retires de ça, de voir tout ce mouvement en 2 ans? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent là-dessus?
La première chose, c'est d'embrasser les détours. Et les apparents ralentissements. D'oser aussi faire des expériences nouvelles, même si ça paraît pas 100% cohérent avec la vision qu'on a à la base. D'accepter que ça change, que ça colle pas à l'image qu'on s'était fait, au plan qu'on avait fait. C'est super de faire des plans, c'est super de clarifier sa vision. Et en même temps, pour que ce soit vraiment à notre service, pour moi, ça demande qu'on soit souple avec ça. Donc ça, c'est une première chose. Une autre, c'est de lâcher la drogue des idées. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait ces 2 dernières années, que j'ai appris plus profondément et que j'arrive beaucoup mieux à faire. C'est j'adore avoir de nouvelles idées. Je suis quelqu'un de très créatif, comme beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Mais si à chaque fois je saute sur la nouvelle idée et du coup j'ai moins d'espace pour celle que j'étais déjà en train de développer, je vais aboutir à rien en fait. Donc ça demande d'être plus patiente et de lâcher l'excitation de la nouvelle idée, d'apprendre à savourer davantage l'accomplissement sur le long terme et donc aussi le labeur que ça implique. Ça c'est une deuxième chose.
Trop intéressant. Je pense que ça touche effectivement beaucoup de gens à cette drogue des idées et qui donne un espèce de pic de motivation au début avant de rentrer dans...
Voilà, mais en fait, c'est comme du sucre, quoi. C'est trop bon et tout, mais ça fait des gros up and down. Et au final, c'est pas sain pour le développement de notre activité. Alors que d'avoir une alimentation saine, par exemple, ça permet de se sentir, d'avoir une autre forme de plaisir sur le long terme. Et c'est pareil avec le fait de s'investir sur le long terme dans un projet, malgré le fait qu'il y ait peut-être moins l'excitation du début, quoi.
Ok, trop cool.
Donc je suis plus calme, en fait, je pense, qu'au début où j'étais un peu plus excitée, quoi.
Ouais. Trop bien, merci pour ces partages. Je trouvais ça cool de rentrer par là pour que les gens suivent un peu. Peut-être c'est des personnes qui ont écouté ton épisode en 2019 qui te redécouvrent là aussi. Mais pour venir sur le sujet dont je voulais qu'on parle ensemble aujourd'hui, c'est un sujet qui nous est cher à tous les deux, mais je sais que toi, tu le creuses encore plus loin sur plein de différents sujets dont tu parleras potentiellement. Et ce sujet, c'est ce qu'on appelle le conditionnement, qui nous touche, oui, dans notre activité, mais aussi dans notre vie au sens plus large, et je pense qu'on ira creuser un peu dans chaque chose. Mais pour ceux qui n'ont peut-être jamais même entendu ce mot de conditionnement, ou pour qui c'est flou, est-ce qu'on peut commencer par juste reposer ce que, selon toi, ça veut dire, le conditionnement ?
Pour moi, le conditionnement, c'est tous les codes et les fonctionnements qu'on a appris depuis qu'on est bébé, par notre environnement, par notre éducation, par la société, aussi pour pouvoir fonctionner dans la société. Donc, pour moi, à un moment donné, ils sont nécessaires, les conditionnements. Par exemple, le langage est un conditionnement, parce que la manière... en fait, ça construit notre esprit, donc ça construit naturellement notre manière de voir le monde. Ça, c'est un des plus gros conditionnements, je pense, le langage. Et ensuite, le truc, c'est que c'est un peu étroit et étriqué quand on veut évoluer et sortir des cadres. Et ça peut vraiment nous limiter. Et ça nous limite, en fait. Et à un moment donné, pour moi, il s'agit d'en prendre conscience et de s'affranchir des conditionnements qui ne sont pas à notre service, qui ne sont pas au service de ce à quoi on aspire, de notre épanouissement, mais aussi de l'épanouissement plus global de la société. Pour moi, c'est essentiel quand on veut faire évoluer le monde, la société, nos communautés. Bah, ça demande de déconstruire aussi les conditionnements qui font qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas ou plus.
Du coup, si j'essaie de résumer ce qu'on disait juste sur la partie définition, et ensuite effectivement le côté des fois c'est à notre service, des fois pas, et tout le volet déconstruction dont on parlera après, c'est depuis notre arrivée sur cette terre bizarre quand on est enfant, c'est tous les messages et observations qu'on fait du monde extérieur qui nous enseignent comment est-ce que je dois fonctionner pour vivre dans le monde, c'est ça ?
C'est ça.
Et ensuite, l'accumulation de toutes ces choses qui ont un effet sur comment on se comporte, qu'est-ce qu'on dit, comment on parle, comme tu disais, le langage et j'imagine l'accent.
Je pense comment on fonctionne aussi, parce que nos croyances conditionnent complètement nos comportements, et nos comportements conditionnent la vie qu'on se crée. Donc pour moi, c'est vraiment à la racine de tout ce qu'on construit, quoi.
Ouais, c'était ma question d'après, c'est du coup, si on se dit qu'on est tous sujet à conditionnement d'un niveau ou un autre de par tout ce qu'on a vécu jusqu'au moment où vous écoutez ce podcast, et c'est autant vrai pour nous deux que pour n'importe quel être humain, à ton sens, c'est quoi la conséquence de l'accumulation de toutes ces choses ? Tu le disais là, ça vient teinter nos croyances et nos comportements, mais je veux bien que tu compose un peu le mécanisme que tu vois derrière.
Effectivement, bah, comme je viens de le dire, nos conditionnements conditionnent nos comportements, et nos comportements conditionnent la vie qu'on a, et la vie qu'on a individuellement conditionne aussi la vie collective, et inversement. Et du coup, si à un moment donné on ne s'épanouit pas, pour moi c'est il y a forcément des zones qu'on a envie de faire évoluer dans notre vie, parce qu'on est des êtres humains et qu'on est des êtres d'évolution et de changement. Pour moi, c'est un des premiers endroits à regarder. Et Et aussi au niveau de la société, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, et je pense que globalement la majorité des êtres humains ne sont pas complètement satisfaits et satisfaites du fonctionnement du monde actuel, pour moi c'est aussi là qu'il s'agit d'aller regarder. Et un exemple où j'ai l'impression un peu de saouler les gens avec ça, pour moi très concret, c'est le langage genré, en fait. Le fait que, dans notre langage, on généralise au masculin. Le neutre qu'on utilise pour parler d'un groupe où il y a différents genres, ça va être à partir du moment où il y a un homme cis, on va utiliser le masculin. Et si on veut vivre dans un monde plus égalitaire, pour moi, mais ça commence par là, comment on veut fonctionner différemment si déjà dans notre langage qui structure nos pensées, on n'inclut même pas les autres genres. Donc pour moi, c'est le genre de changement à opérer qui n'est pas facile, parce qu'il y a aussi tout l'extérieur qui incarne le conditionnement de base. Pour moi, ça va commencer par exemple par là, par oser utiliser un langage inclusif qui peut dissonner pour certaines personnes parce qu'elles en ont pas l'habitude, ou oser carrément utiliser le féminin neutre, qui pour moi va faire un effet balancier, en fait, pour équilibrer. Exemple.
Ouais, du coup, ce que j'entends, c'est que c'est un exemple de conditionnement à la fois personnel, parce que du coup, on nous apprend depuis qu'on est enfant à parler de telle ou telle manière, et du coup, on a ce conditionnement de langage-là, mais aussi collectif, parce que c'est, entre guillemets, la norme pour tous, j'allais dire, et toutes, du coup, de parler en ce sens. Et du coup, je trouve que c'est une illustration de ce qu'on entend par conditionnement, de se dire, ça, c'est un exemple concret. Tout au long de notre vie, on a appris à parler comme ça, donc on parle comme ça, et ça peut avoir des conséquences qui sont celles que tu décris là.
Voilà, et par exemple, moi, je me rappelle très bien de quand j'ai appris, quand j'étais petite, que quand... dans un groupe, il y avait des femmes et des hommes, parce que à cette époque-là, pour moi, il y avait que ces deux genres-là aussi. C'était ils et tous. Et je me rappelle, je sens ce que ça crée en moi de OK, je passe en second, en fait. C'est subtil, c'est pas, on me l'a pas dit, mais ça conditionne la manière dont je me positionne dans le monde, en fait.
Et donc, plein de conséquences sur ton comportement, et donc sur la réalité de ta vie, comme tu disais avant, qui était l'espèce de mécanisme du conditionnement dont on parlait.
Voilà. Ouais. Et par ailleurs, du coup, j'ai toujours aussi remarqué, comme dans les groupes, généralement, les hommes prennent plus la parole, etc. Et je pense que c'est aussi lié à ça, et par expérience... j'ai vraiment l'impression que quand on change ça, quand on met de la conscience là-dessus, spontanément, les choses s'équilibrent et changent, en fait. Donc, on peut vraiment agir sur les conditionnements.
Et l'exemple que tu donnais pour montrer une autre conséquence de ça, au-delà du langage et de comment on parle et de ce que ça peut avoir, t'organisais récemment un challenge pour les indépendantes et les entrepreneuses. Les entrepreneuses au sens plus large. Oser se montrer davantage, oser prendre la parole, oser se rendre plus visible. Et j'imagine que c'est une autre des conséquences de ce conditionnement-là dont tu parlais juste avant, qui fait que, pour beaucoup d'entrepreneuses ou d'indépendantes, c'est pas forcément évident de prendre la parole sur les réseaux sociaux, de parler de son travail, de se rendre visible. Et ça, je trouve que c'est un autre bon exemple de un conditionnement individuel, mais aussi collectif, qui crée des conséquences très tangibles dans le quotidien de nos activités, quoi.
Oui, pour préciser ce truc du langage neutre au masculin, c'est un des éléments du conditionnement qui crée le fait que...
Ouais, cette conséquence.
Cette hiérarchie des genres, quoi. C'est pas juste cet élément de langage. Mais voilà, généralement, le conditionnement aussi, la manière dont je le vois, passe par plein de micro-détails qui, individuellement, paraissent peut-être anodins. Et c'est ça un petit peu le piège quand on veut transformer nos conditionnements. On dirait, c'est pas ça qui va faire la différence.
Mais c'est l'accumulation.
Mais en fait, c'est l'accumulation de ces petits aspects-là
Et puis, comme on disait depuis au début, depuis qu'on est enfant. Donc, genre, ouais. C'est la malléabilité de notre cerveau et de notre psychologie qui, d'année en année, grandit avec ça.
Ouais.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on le regarde à un instant T, on se dit comment est-ce possible que ce micro-détail fasse toute la différence ? Mais en fait, c'est mis à l'échelle de depuis qu'on est gamin. Et je regardais un documentaire fascinant, d'ailleurs, sur Netflix, une série documentaire qui s'appelle Babies, je crois, qui parle de comment fonctionne, comment est-ce qu'un enfant de 0 à 1 an, comment est-ce que son cerveau se façonne. Et du coup, ils expliquaient dans un des épisodes que cette première année, c'est l'année où le cerveau humain est presque le plus en action, parce que le bébé, il est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Et il donnait des exemples de, à 4 mois, les enfants ont déjà compris la gravité, sans pour autant savoir l'expliquer, mais avec plein d'études qui montrent que, même sans parler, tu peux capter qu'ils comprennent déjà la gravité, et que si on déplace une tasse hors d'une table, elle est censée tomber. Et du coup, ce qu'il disait comme conclusion à ce moment-là, c'est que tout ce qu'un bébé va voir, goûter, montrer, découvrir pendant cette première année, va énormément façonner sa compréhension du monde et donc tout ce qu'il va faire derrière. Et donc il conseillait de montrer une énorme diversité, lui faire goûter à plein de choses, lui faire voir plein de choses, lui faire rencontrer plein de visages humains différents, et ainsi de suite. Et je me dis, c'est dingue, parce que en un an, j'imagine que ça a un impact énorme sur tout le reste de ta vie, en fonction de ce qui se passe dans cette première année, quoi. Et je pense que ça rejoint ce qu'on dit là sur les conditionnements.
Ouais, c'est drôle parce que justement hier, j'ai fait une story là-dessus, sur l'importance d'avoir des exemples de la diversité, en fait, pour ouvrir le champ des possibles et valider que c'est OK la différence, que c'est OK de pas rentrer dans des normes trop étriquées, quoi. Et je trouve ça hyper précieux, justement, d'avoir des exemples, et c'est pour ça que je trouve important aussi d'être ou de créer des communautés où on s'entraide à être libre et à révéler notre différence dans un espace où les personnes vont t'accueillir et te dire « Ok, c'est cool que tu sois différent ou différente. »
Grave, c'est clair. Et je suis curieux sur ce point, justement. Si tu as un autre exemple, peut-être personnel, ou que tu as observé un conditionnement de ton enfance, quelque chose que tu as peut-être observé sur le travail ou le rapport de tes parents à leur boulot, ce genre de choses-là, qui, à mon sens, peuvent aussi refléter des conditionnements qui restent en nous quand on devient entrepreneur et entrepreneuse plus tard. Je suis curieux de citer un exemple de ça et des conséquences concrètes que ça a pu avoir.
Plus en lien avec l'entrepreneuriat ?
Ouais, plus en lien avec... là, tu parlais de voir des exemples de différence. Je pense que ce qui est vrai pour beaucoup d'indépendants aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'exemple... Nos parents n'étaient pas indépendants, par exemple, n'étaient pas à leur compte, n'ont pas eu de boîte, beaucoup étaient salariés. Et donc, on n'a pas vraiment eu d'exemple en grandissant de personnes épanouies, qui gagnent bien leur vie, pour qui ça se passe super bien en tant qu'indépendant. Et je pense que ça, c'est un gros effet sur comment on se sent et on se comporte dans son activité, quoi. Donc, c'était cette curiosité-là qui menait à la question.
L'exemple qui me vient et que je pense beaucoup de personnes portent, c'est... l'argent, c'est mal. Les gens riches, c'est des gens mauvais qui détruisent le monde. Ça, c'était un bon gros conditionnement.
Que t'as vécu quand t'étais enfant, c'est ça ?
Oui. Dans ma famille. Et en même temps, on a quand même envie d'avoir de l'argent, mais c'est mal. Et on en manque. Et c'est de la faute des riches. Un gros truc.
Donc ça, c'est... l'accumulation des signaux d'extérieur que tu as reçus qui créent le conditionnement. À ton sens, du coup, c'est quoi les conséquences que ça a eu, ça, sur ton activité ?
La première conséquence que ça a eu, c'est que déjà, à la base, je voulais vivre sans argent.
Ok, complexe. On part sur des bases solides.
je voulais pas rentrer dans le jeu... De créer de l'argent, et du coup ça fait que ce qui peut être intéressant en soi, si des personnes sont inspirées par ça, c'est génial, en fait. Mais moi je sens c'était plus j'aspirais pas à tous les inconvénients que ça implique de pas avoir d'argent, en fait. Mmh. Et ça, c'est ce que je disais dans le premier podcast, il me semble. C'est que pour moi, une inspiration, quelque chose qui nous aspire, c'est équilibré si on est d'accord avec les inconvénients que ça implique. Et moi, je voulais pas l'argent parce que l'argent, c'est mal. Mais au final, le mode de vie que j'avais à ce moment-là, donc je vivais chez des amis avec qui on n'avait pas... Enfin, j'allais de un peu d'appartement en appart. Bon, je fais ça aussi aujourd'hui, mais c'est différent. Parce que je suis...
Oui, c'est pas pour les mêmes raisons.
Ouais, en fait. C'est pas pour les mêmes raisons. Mais j'avais un mode de vie qui ne me correspondait pas et générer de l'argent, finalement, me permet d'accéder davantage à un mode de vie qui me convient et qui me permet aussi de contribuer au monde comme j'en ai envie, comme ce qui fait sens pour moi. Et donc je me limitais certes individuellement dans mon mode de vie, mais aussi dans ma capacité à contribuer, parce que du coup j'étais épuisée, j'ai fait une espèce de burn-out. Du coup c'était pas si généreux que ça de pas générer d'argent. Et puis quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bah, ça a donné des difficultés de ouf à poser des tarifs, à me faire payer. Et ça a été long à déconstruire. Et je considère que j'ai encore du taf, alors ouais. que ça fait 6 ans que je suis entrepreneuse et que je bosse là-dessus.
Ouais.
Donc ouais, ça a eu des belles conséquences. Et en même temps, ça a aussi créé un beau chemin de déconditionnement. Et qui est quand même une de mes passions dans la vie.
et de déconstruire des choses pour préciser.
Voilà, de déconstruire des choses pour s'affranchir, en fait, pour gagner en liberté d'être. Et ça aussi était une chouette expérience d'amour, en fait, parce que pour... déconstruire, j'ai eu à rencontrer des personnes qui génèrent de l'argent et qui font, selon mes valeurs, de belles choses. Aussi, pas forcément des personnes qui font des choses en lien avec mes valeurs, mais juste de les rencontrer et de voir que c'est des êtres humains et pas des espèces de monstres qui ouais. Veulent dominer le monde. alors, je parle des personnes que j'ai rencontrées, hein. Ça m'a permis aussi de me rendre compte des préjugés que j'avais et d'apprendre à aimer des personnes que je voyais sans les connaître à la base comme des monstres. Mmh. Et aussi apprendre à m'aimer moi avec mes aspirations à avoir un certain confort, un mode de vie qui demande aussi des ressources financières. Mmh, mmh. Parce que du coup, je détestais, j'aimais pas cette part de moi qui a besoin de son petit confort, qui aspire à se faire accompagner, enfin, à faire plein de choses qui demandent des ressources financières.
Ouais. Mmh. Et je trouve ça trop intéressant de voir tous les nœuds dont tu parles et le panel entier de conséquences ici, là-bas, enfin voilà, ouais. tout ce que ça entraîne dans nos vies. Et je pense que le réflexe qu'on peut avoir quand on observe ce genre de choses, c'est de les prendre comme des cas particuliers en silo, tu vois. Un peu en mode, ah ben je sais pas fixer mes tarifs, faut que j'apprenne à fixer mes tarifs, je vais aller suivre une formation pour fixer mes tarifs, un truc comme ça. Et qu'on prenne tout en mode silo. Et à mon sens, c'est ça qui est tellement intéressant, je trouve, dans ce sujet. Et la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse un épisode dessus, c'est que, en fait, faut remonter à la source, quelque part. Et ouais. on a beau traiter les trucs en silo un par un, en fait, ça réapparaît dans plein d'autres endroits parce que, pour moi, le résultat de ces conditionnements, c'est un peu comme si on portait des lunettes avec un filtre de couleur et que le monde entier est filtré par cette couleur-là qui... La ouais. couleur, c'est la métaphore de toute la construction qui vient derrière. Et tant qu'on traite pas le filtre, en fait, ça se matérialise et ça se manifeste dans plein d'endroits différents.
C'est ça. Ça a du sens aussi d'apprendre des stratégies.
Bien sûr.
Mais c'est inutile... si on s'attaque pas à un moment donné au filtre, à la racine.
Ouais.
Enfin, je suis convaincue de ça.
Ouais, et qu'on joue sur les deux objets de recherche en même temps, de ouais. apprendre la partie stratégique de ouais. c'est comment être entrepreneur ou entrepreneuse, comme ouais. on disait avant, et en même temps aller questionner qu'est-ce que j'ai hérité de mon passé en termes ouais. de comment je vois le monde. Et si tu vois l'argent, un autre exemple qui revient régulièrement, c'est le marketing comme la source ouais. du mal-être sur Terre.
Ouais, c'est ça.
Ça me semble plutôt évident que ça va être compliqué pour toi de générer de l'argent avec ton activité.
Ouais. Mmh.
Tu parlais du coup tout à l'heure du fait que ça fait 6 ans que t'es sur un chemin de déconstruction sur le sujet de l'argent, mais que tu adores ça, donc j'imagine que tu le fais dans plein d'autres endroits, et je le sais pour preuve de te voir opérer dans le monde. Et je suis curieux du coup de, avec ces 6 années d'expérimentation, à ton sens, c'est quoi le processus que tu suis quand t'identifies un conditionnement ou un truc qui vient filtrer ta manière de voir le monde et qui, selon toi, te limite, parce que j'imagine qu'il y a des conditionnements qui sont à notre service aussi. C'est quoi un peu, si tu devais résumer, le processus que tu enclenches de manière consciente, sachant que je sais que tu le fais de manière consciente maintenant?
Ok, c'est intéressant parce que j'ai pas encore modélisé.
Je te demande l'exercice en direct.
De modéliser. Pour moi, la première étape, c'est d'en parler, simplement, enfin de le prendre, d'en prendre conscience et d'en parler pour clarifier, parce que généralement, quand on sans une limite, c'est pas si clair.
Ouais.
Et en parler avec des personnes qui savent écouter, ça permet d'identifier, de mieux clarifier la croyance, par exemple, qui nous limite, ou le groupe de croyances qui nous limite. Et ensuite, pour moi, le plus efficace, ça va être de me confronter directement à des expériences qui défoncent ces croyances. Donc, aller rencontrer des personnes qui vivent l'inverse, en fait. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ensuite, ça peut aussi passer par des lectures, des vidéos, etc., si on n'a pas la possibilité de rencontrer directement des personnes ou en complément. Et d'expérimenter, pour moi. D'abord, prendre conscience, en parler, rencontrer des personnes,
sources d'inspiration,
des situations inverses, expérimenter. Et il y a aussi, bien sûr, de superbes exercices de développement personnel pour transformer les croyances, qui consistent, en fait, pour moi, parce qu'en fait, notre cerveau, avec nos biais cognitifs, filtre la réalité. Et on peut jouer avec ça, avec nos perceptions. Et c'est d'ailleurs ce que je fais en coaching, quand il s'agit de transformer une croyance. Et on peut aller voir... et du coup, une croyance est basée sur tous les éléments de mes expériences que j'ai filtrés qui valident cette croyance. Et d'aller voir dans le passé, dans mon passé, dans mon expérience, tout ce qui invalide déjà cette croyance. Et si je cherche, je vais trouver. Déjà, ça fait bouger la croyance et les conditionnements. Par exemple, si j'ai un conditionnement, qu'est-ce que je peux avoir comme conditionnement les femmes sont plus hystériques que les hommes.
Ok.
Par exemple. C'est une croyance. Déjà, si je vais chercher dans ma mémoire toutes les fois où j'ai vu des hommes rentrer dans des états qu'on pourrait qualifier d'hystériques, ou des moments où j'ai vu des femmes très calmes et apaisées, voilà... Déjà, ça peut équilibrer quelque chose. Et je peux jouer avec mes perceptions comme ça, en me posant la question, en allant voir déjà dans mes souvenirs qu'est-ce qui contredit ma croyance, mon conditionnement. Voilà. Et déjà, si on fait tout ça, bon...
On a fait une bonne partie du chemin.
Ouais.
Je voulais appuyer sur un point que je trouve hyper, hyper intéressant. Tu parlais des biais cognitifs. Et effectivement, je pense que ce qui rend complexe ce sujet de conditionnement et comment ça s'incarne dans des croyances, à mon sens, c'est ça le rapport, c'est on a un conditionnement et ça s'incarne dans des phrases concrètes qui sont des croyances qu'on a sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste, sur ce qui est la réalité. Je pense que quand on a ces croyances-là,
le biais cognitif qui vient et continue de les valider, c'est le biais de validation. C'est-à-dire que on cherche toutes les sources d'information et les preuves que ce qu'on pense et qui est ce qui est dans notre psychologie est vrai. Et du coup, c'est ça qui crée ce que tu disais là, que un bon exercice à faire pour déjà aller travailler dessus, c'est chercher consciemment tout ce qui prouve que c'est faux.
Ouais.
Et une question qu'on pose souvent, toi et moi, aux gens, c'est est-ce que tu... Enfin, moi, je l'ai posé en coaching récemment, c'est est-ce que tu penses qu'il existe un autre être humain qui a vécu une situation exactement comme la tienne, voire pire, et pour qui l'inverse de ta croyance est vrai. Et je trouve que ça, déjà, de se dire, ah ouais, ça existe un autre être humain, ça commence à faire ce chemin dont tu parlais.
Oui, du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, parce que le piège, en plus, actuellement, avec les réseaux sociaux et le système des algorithmes, c'est que les algorithmes vont nous proposer tout ce qui va dans notre sens et va valider encore nos croyances et nos modes de pensée. Et donc, un truc que j'aime beaucoup, une idée que j'aime beaucoup aussi, c'est pour aussi aller débusquer des conditionnement dont on n'aurait pas conscience et qui nous limiterait ou alors qui créerait une forme d'incompréhension d'autres êtres humains ou voilà, c'est d'aller écouter des personnes brillantes mais qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ça, j'adore cette idée, plutôt que d'écouter que des personnes avec qui on est d'accord, ou alors d'écouter des personnes avec qui on n'est pas d'accord, mais juste pour les défoncer et se foutre de leur gueule.
Et dire que c'est des cons qui...
et voilà, et les écouter sans réelle ouverture, juste dans une optique d'opposition, en fait, dans une posture déjà en soi d'opposition, mais de s'intéresser à des personnes qui sont vraiment pas d'accord avec nous, et en même temps, qui sont brillantes.
Grave. Et ça revient à ce que tu disais un peu tout à l'heure sur rencontrer des gens, lire des livres, écouter des choses.
Ouais, et c'est là où aussi le fait de rencontrer de la diversité est aussi précieuse, quoi.
Ouais, carrément. Et pour moi, ça nourrit une de mes croyances personnelles qui, je pense, est à mon service, mais en soi, je sais pas, peut-être qu'il y a des endroits où c'est pas à mon service. C'est de me dire que ça n'existe pas un être humain qui a vraiment compris comment ça fonctionne le monde et qu'est-ce qu'on fout sur Terre. Et du coup, je me dis, si personne n'a vraiment la réponse, qui suis-je pour l'avoir déjà ? Mais ça veut dire que tous les autres êtres humains, peu importe leurs croyances, peu importe leur conditionnement, peu importe si je suis d'accord avec eux ou pas, ils ont une partie, un petit morceau du puzzle de comment fonctionne le monde. Et donc, j'ai des choses à apprendre de eux, peu importe qui ils sont. Et je trouve que cette... Moi, c'est un truc qui est une croyance qui m'est chère, qui m'aide à équilibrer et me dire, en fait, ok, si je pense ça, ça veut pas dire que j'ai compris et que c'est la vérité, ça veut dire que c'est le résultat de ma vie jusqu'à aujourd'hui, le 27 mai 2021, j'ai 27 ans, voilà, ça fait 27 ans que je construis la personne que je suis aujourd'hui, ce que je pense être vrai, c'est seulement le résultat de ces 27 ans, ça veut pas dire que c'est vrai, quoi. Et du coup, ça m'entraîne sur une autre question que je voulais te poser. Est-ce que, à ton sens, on peut avoir un conditionnement, entre guillemets, qui soit à notre service ? Parce que là, on a pas mal parlé des conditionnements qui nous limitent, genre, on a vu tous des exemples reçus de notre famille que l'argent, c'est mal, que le travail, c'est un poids, que toutes ces choses-là. Est-ce qu'à ton sens, on reçoit des conditionnements qui sont à notre service ?
Alors, j'adore cette question, parce que, pour moi, la réponse est hyper... complexe. En fait, je pense pas qu'à un moment donné, c'est possible d'avoir le conditionnement, les croyances parfaitement à notre service, etc. Je crois plutôt que c'est un processus permanent et qu'à un moment donné, un conditionnement a été à mon service. Et à un moment donné, il ne l'est plus, et c'est une nouvelle croyance que je vais construire qui va être à mon service. Et en même temps, à un moment donné, elle ne va plus l'être. Et pour moi, c'est un processus permanent, en fait, parce qu'on est, vivant, on est du mouvement, et du coup, ce processus de déconstruction, reconstruction, déconstruction, reconstruction, ne s'arrête jamais. Et du coup, forcément, à un moment donné, on va construire une croyance qui va devenir obsolète et nous limiter et devenir une douleur. À un moment donné, on va devoir la dépasser, etc. Et du coup, rien n'est figé, en fait, à partir du moment où on a envie de changer, d'évoluer, même sans envie, en fait, on est changeant. Donc,
Ouais, mais j'ai un exemple super concret qui me vient de ce que tu racontes, de un exemple que j'ai rencontré en coaching de groupe, où une personne était, elle parlait du fait qu'elle avait du mal à se montrer, à vraiment communiquer, à on est arrivé au terme briller. Et on est remonté, du coup, par la voix de... Je lui ai posé la question. À quel moment dans ton enfance et dans ton passé est-ce que la stratégie de ne pas te montrer, ne pas briller, ne pas oser ouvrir et parler de ce que tu es vraiment, c'était la seule stratégie que tu avais pour recevoir de l'amour? Et du coup, on est arrivé au fait de parler de son enfance et son adolescence au collège, où c'était une enfant qui faisait... plein de choses, elle faisait de la musique, elle faisait du dessin, voilà, elle avait plein de talents qu'elle exprimait dans plein d'endroits, et du coup ça générait de la jalousie chez ses amis, ses copines, chez ses cousines aussi, les autres membres de la famille, et ce qui faisait qu'à chaque fois qu'elle osait montrer un truc et recevoir du coup de potentiellement de l'admiration des parents ou quoi que ce soit, ou des autres, ça faisait que ses amis et son groupe social lui coupaient la porte. Et quand on est gamin à cet âge-là, c'est hyper facile de dire t'es ma copine, t'es pas ma copine. Oh. Et du coup, ça lui causait beaucoup de douleur. Oh. Ce qui fait qu'à un moment donné, sa stratégie pour être intégrée et appartenir, qui est un besoin humain d'appartenir à un groupe, c'était ben, je vais réfréner ce que je montre de moi et je vais faire ça dans mon coin et le garder pour moi, quoi. Oh. Et j'imagine que, du coup, conditionnement de ça, sur toutes nos années d'adolescence où on se construit de beaucoup, ça a créé le résultat que, bon, ben voilà, aujourd'hui, à l'âge adulte, alors qu'il n'y a plus du tout les mêmes enjeux, bah c'est plus à son service. Alors qu'à l'époque, ça l'était quelque part, parce que ça lui permettait de recevoir de l'amour.
Ouais, mais c'est ça, notre système fait du mieux qu'il peut de toute façon. Et je pense aussi à ce conditionnement sur l'argent. À un moment donné, cette croyance de l'argent, c'est mal, les gens riches sont des gens mauvais, je pense aussi qu'il a un rôle. Il a eu un rôle, il a un rôle à un moment donné, et il m'a aussi forgé des valeurs de solidarité, de voilà, ça sert quelque chose.
Ouais, et je pense que c'est ça qui t'a poussé quelque part à t'intéresser autant à l'écologie, à l'autonomie, tous ces modes de vie alternatifs aussi que t'adores et qui font partie de toi, quoi.
Oui, simplement, à un moment donné, il y a quelque chose dans ce conditionnement-là, il y a des choses qui me conviennent encore.
Et d'autres non.
Et d'autres non, et je peux le faire évoluer. Et il y a un autre exemple qui me vient, qui illustre vraiment bien ça, je trouve. C'est un ami. Donc voilà, je suis polyamoureuse et je suis beaucoup dans des milieux polyamoureux et sex-positifs. J'en parle à d'autres moments, dans d'autres cadres. Et pour moi, le polyamour et le mouvement sex-positif, c'est une démarche très forte de déconstruction par rapport à la norme de la société. Et j'observe, j'ai un ami qui, du coup, est depuis plusieurs années dans ces milieux-là et qui, aujourd'hui, ressent qu'il s'épanouirait beaucoup plus dans une relation monogame. Et c'est devenu difficile pour lui de l'assumer, de le dire. L'autre jour, il l'a dit devant plusieurs personnes et il a célébré ça parce qu'il avait reconstruit le truc de « non, ce qui est bien, c'est le polyamour, c'est machin ». Donc il s'est reconstruit un conditionnement.
Incroyable.
Et du coup, pour moi, c'est sans cesse, en fait. Et je suis vigilante à ça aussi, parce que je vois la facilité quand on est dans un groupe qui est dans une démarche de déconstruction, de créer de nouvelles normes
qui en soient reconditionnées,
qui peuvent de nouveau être enfermantes, en fait.
Trop intéressant. Et du coup, je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans le processus, qui est en premier d'aller questionner et prendre conscience et se demander, je pense, rien que de se poser la question de, tu vois, moi j'ai un truc que j'aime bien poser, c'est est-ce que ce que je pense être vrai, c'est vraiment la réalité, ou est-ce que non, tu vois, genre de se questionner sur tous ces filtres de ce que je pense être le comment fonctionne le monde, la vérité, le mieux, le bon. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que c'est ce que j'ai reçu? Et est-ce que ça reste à mon service aujourd'hui par rapport à ce que j'ai envie de vivre et ce que j'ai envie de faire dans la vie, dans mon business, mes objectifs? Voilà, est-ce que ce que je pense être vrai est au service de mes objectifs? Je trouve que c'est une question hyper importante qu'on devrait tous se poser.
J'aime beaucoup cette question de est-ce que c'est à mon service? Parce que pour moi, la réalité, de toute façon, on n'y a pas accès, en fait. Dire c'est vrai, c'est faux, c'est réel, c'est pas réel. Enfin, déjà, nos cinq sens filtrent la réalité, nos biais filtrent la réalité, notre cerveau filtre la réalité. Et on est un micro point de vue sur la réalité. Donc, pour moi, on est complètement à l'ouest. Pour moi, la seule question, c'est pas tellement est-ce que c'est vrai, mais est-ce que c'est à mon service et est-ce que c'est au service aussi des personnes qui m'entourent, de ce que je perçois, de l'interdépendance. Qu'est-ce qui me semble être le plus à mon service et au service de la collectivité?
C'est important que tu le dises parce que je pense que cette question de qu'est-ce qui est à mon service, on peut l'interpréter de manière assez égocentrée en se disant... tout le monde s'occupe de ce qui est à son service et on prend plus soin des uns des autres. Et quand on est en relation, je pense couple, famille, ce genre de choses, finalement ça peut pas vraiment fonctionner comme ça parce que on est interdépendant comme tu dis. Et je trouve que c'est hyper bien de ramener cette notion là qui à mon sens est fondamentale dans l'entrepreneuriat aussi et dans le fait d'avoir nos activités, de se demander qu'est-ce qui est à mon service et en même temps au service de mon entourage, de mes clients, du monde, de l'impact que j'ai envie d'avoir et jongler entre les deux.
Pour moi c'est fondamental. De toute façon, la notion d'interdépendance est très centrale dans mon approche, dans ma vision du monde. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas au service de l'interdépendance ne peut pas être à mon service et inversement.
Parce que ça se nourrit.
Oui, et aussi quelque chose que j'ai envie d'apporter du coup dans ce que tu dis, c'est me poser la question de qu'est-ce qui est à mon service et qu'est-ce qui est au service des autres. Et pour le qu'est-ce qui est au service des autres, c'est aussi hyper important du coup de demander parce que j'ai pas accès à la réalité des autres. Demander, vérifier, communiquer, revérifier, et en plus on évolue, donc faut faire régulièrement, etc.
Et c'est drôle parce que du coup je pensais pas du tout qu'on atterrirait sur ça, mais ça arrive sur l'exercice hyper important d'aller échanger directement avec les gens qu'on a envie de servir et les clients
idéaux avec nos prospects et nos prospects.
Et c'est drôle qu'on arrive à ça, de se dire, de par mon conditionnement de ce que je vois du monde et du fait que je ne peux pas 100% accéder à la réalité de l'autre pour savoir ce que je peux créer pour l'aider dans mes services, dans mes offres, dans mes produits, ça en devient indispensable d'aller rencontrer sa perspective du monde et son conditionnement pour voir où est-ce qu'il y a un point de rencontre et comment on peut s'accompagner et ce que je peux l'aider dans sa vie et dans son activité, peu importe ce que c'est, le service que j'ai envie d'offrir. Fascinant. C'est dingue. et j'ai un autre truc auquel je pensais, j'avais envie de dire... Moi, un des travaux que je trouve les plus kiffants dans ce que je fais, c'est repositionner des choses qui, de base, comme l'argent ou le marketing, par exemple, qu'on pense être... on peut penser ou avoir des conditionnements dessus que c'est mauvais, etc. Et de repositionner ces choses comme les outils qu'ils sont au service du monde et au service des autres. Et j'adore renverser ce truc et repositionner l'argent, par exemple, en disant... Générer de l'argent pour toi, c'est être au service des autres, si tu le souhaites. Et de montrer plein d'exemples de comment c'est possible. Faire du marketing hyper puissant, c'est au service des gens que tu as envie d'aider quelque part. Et j'aime trop renverser ce truc, parce que je pense qu'on peut le faire avec plein de choses qui sont des outils, comme le marketing et l'argent, mais que dans notre réalité, on se dit « Ok, non, ça c'est mauvais. » je voulais juste partager que j'adore faire cet exercice-là.
C'est un outil comme un couteau, quoi. Ça, c'est l'exemple, je me rappelle qu'on prenait beaucoup il y a 2 ans dans nos webinaires, de l'argent comme un outil, effectivement un pouvoir, mais qui du coup accentue accentue nos actions, ce qu'on est. Donc, avec l'argent, on peut effectivement détruire beaucoup de choses. Et on peut aussi construire beaucoup de choses.
Ouais. 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 Un exhausteur de nos conditionnements, finalement.
Ouais, ouais. Et de nos valeurs.
Et de nos valeurs, qui est un autre grand sujet dans lequel je pense qu'on prendra pas le
pas le temps aujourd'hui.
Pas le temps aujourd'hui de rentrer dedans. Est-ce que t'as... Je pense qu'on a bien balayé le sujet. Je suis curieux de, avec tout ce temps de discussion, si tu devais essayer de synthétiser tout ce qu'on s'est dit dans qu'est-ce que c'est le conditionnement et surtout pourquoi c'est important pour les gens qui nous écoutent de s'y intéresser. Comment tu synthétiserais ça avec tes mots?
Je dirais que le conditionnement, c'est un ensemble de codes nécessaires pour fonctionner dans la société dans laquelle on est, on évolue. Et qu'en même temps, c'est au service de nous-mêmes et de la société de le déconstruire et de le faire évoluer sans cesse. Voilà, justement, pour que ce soit un outil qui nous serve.
Ouais. Moi, la petite métaphore qui me vient, enfin, c'est pas exactement une métaphore, mais en tout cas, la manière dont j'ai envie d'en parler avec tout ce qu'on s'est dit, et je crois que je disais ça un peu dans ma newsletter récemment, c'est que pour moi, les conditionnements, c'est un peu les règles implicites qu'on a dans notre psychologie de comment je dois vivre, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour telle et telle chose. Et que c'est hyper important de le mettre à jour hyper régulièrement, comme on met à jour son ordinateur ou une application, voilà, pour pouvoir continuer d'opérer dans le sens dans lequel on veut opérer dans le monde.
Ouais, il y a aussi une nuance que j'ai envie d'apporter.
Vas-y, fonce.
Le conditionnement, c'est effectivement du coup des codes, des schémas psychologiques, et on peut l'utiliser pour fonctionner et le faire évoluer comme un outil, comme tu viens de dire. Et pour moi, ça demande aussi de s'en désidentifier, de prendre de la distance, d'en prendre conscience. Et pour moi, il y a aussi un vrai travail de se désidentifier à un moment donné de ce qu'on a appris de nos conditionnements, de nos codes, pour pouvoir... pour qu'il soit à notre service.
Ouais, jouer avec.
Voilà. Mais si on y est complètement identifié, en fait, on peut pas jouer avec. C'est notre identité.
Trop intéressant.
Et ça, je pense qu'au final, c'est le travail le plus précieux qu'on peut faire de conscience.
Ouais.
Et j'ai même envie de mettre le mot spiritualité dessus.
Ouais, de prendre conscience que je ne suis pas...
Je ne suis pas tous ces apprentissages, tout... Voilà, je suis...
Plus que ça.
Plus que ça, je suis un espace.
Ouais, je suis un truc qui change d'année en année et que je peux faire changer pour aller...
Je suis un mouvement... Et ce conditionnement permet de m'incarner, de fonctionner. Ouais.
Ce qui est intéressant, parce qu'en soi, encore une fois, en revenant à ce truc de « en vrai, on comprend rien de ce qui fonctionne », cette croyance que « je ne suis pas toutes ces choses-là », elle est en fait indispensable, comme tu disais, pour changer ce truc que je ne suis pas, mais le mettre au service de ce que j'ai envie de faire. Et ça devient un peu méta, là, comme discussion.
Oui, alors là, tu m'envoies, j'ai envie de partir loin, donc faut m'arrêter.
Ouais, on va peut-être conclure là-dessus, mais l'invitation que j'ai envie de donner à toutes les personnes qui ont écouté cette conversation, et j'espère que ça vous a parlé, c'est ce premier pas d'aller questionner. Déjà de se dire, ah tiens, c'est intéressant, peut-être que tout ce que je pense être vrai et la manière dont j'opère, effectivement, c'est pas mon identité. Et si je le souhaite, je peux opérer différemment. Et ensuite, aller questionner, est-ce qu'il y a des choses qui sont à mon service ou est-ce qu'il y a des choses qui, au contraire, ne sont pas à mon service dans ce que je suis en train de construire dans ma vie, qui sont un peu dans mon mode opératoire, disons, quoi.
Ouais. Ouais, j'ai envie d'ajouter aussi.
Vas-y.
Que d'être patient et patiente et douce avec soi-même, parce que c'est tellement enraciné et puissant que c'est pas en claquant des doigts, quoi, que forcément qu'on... Enfin, ça peut, parfois, mais voilà, c'est un gros job, en fait.
Bah ouais, on est face à des années et des années de construction, donc voilà. Les déconstruire, c'est pas immédiat.
Par exemple, je peux avoir conscience que la jalousie, c'est un conditionnement.
Pour autant,
avant d'en sortir, il peut y avoir du taf.
Ouais. Et du coup, avant de te demander où est-ce que les gens peuvent suivre ton travail et venir potentiellement discuter avec toi davantage de ce sujet, j'ai aussi une invitation à envoyer aux gens qui nous écoutent. Je serais très curieux de voir, quand vous commencez à avoir cette réflexion d'aller chercher, ce que vous trouvez, et si vous voulez me le partager, potentiellement à Marie aussi, je ne sais pas si tu es prête à recevoir les messages des gens, mais si vous voulez me partager ce que vous trouvez, ce serait un grand plaisir de voir ce qui émerge pour vous et de vous accueillir là-dedans pour en discuter. Donc n'hésitez pas à me faire signe pour me partager ce que vous trouvez dans cette recherche de qu'est-ce qui vous conditionne et les croyances qui est derrière.
Avec grand plaisir pour moi aussi. Depuis quelques mois, je me suis mise sur Instagram et je développe mon Instagram. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir me voir...
Le meilleur endroit, c'est Instagram. C'est Marie Lanadza, tout attaché, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Ok, très bien. Donc, je mettrai le lien sur la page du podcast. Merci, Marie. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, mais j'ai adoré cette conversation.
Moi aussi, c'est vraiment un des sujets que je préfère. Donc, merci beaucoup, Thomas. Et un dernier mot, je dirais... Affranchissons-nous en permanence.
Très cool, ça me va comme challenge. Merci Marie, à bientôt.
À bientôt.
J'espère sincèrement que tu as autant apprécié cette discussion que moi. Et je trouve ce sujet clairement fascinant et si important pour nos activités, mais aussi pour nos vies. On a tous reçu, depuis notre enfance, tellement de signaux de l'extérieur sur ce qu'on devrait être, ce qu'on devrait dire, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait penser, ne pas penser, montrer, ne pas montrer, que l'accumulation, de toutes ces choses pèse forcément de tout son poids sur ce qu'on fait, ce qu'on dit et tous nos comportements. Et par conséquent, sur ce qu'on a et sur ce qu'on pense être notre réalité. Et cette chose-là, ce que je dis là, ce qu'on pense être notre réalité, à mon sens, ce n'est que la conséquence de toutes ces autres choses, de toute cette accumulation. Ça n'en fait pas quelque chose de bien ou de mauvais. Simplement, ça existe. Du verbe être. Et suite à cette conversation, j'ai une petite invitation pour toi. À partir de maintenant, je t'invite à ce que pour chacun de tes objectifs, tu ailles explorer autant les stratégies et les plans d'action concrets terre à terre qui sont certes très importants, mais aussi ton intériorité, ton conditionnement, tes croyances, bref, tout ce dont tu as hérité sur le sujet de cet objectif. Tes conditionnements et les croyances qui y sont attachés auront nécessairement un impact sur ce que tu décides de faire concrètement pour progresser dans ton activité et dans ta vie. Et ce travail de l'intérieur, avec le travail de l'extérieur, disons, plus stratégique, ces deux choses vont, à mon sens, main dans la main, et sont, je le pense, indissociables pour faire de véritables pas en avant. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Si tu veux aller plus loin avec moi et m'autoriser à t'aider encore davantage pour ton activité, tu peux rejoindre ma newsletter sur thomasburbidge.com/newsletter. Et sinon, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.